ζαν από μόν. Τάγου μακάσι ζαν ανζωτό. Γεβίσα φαμίτο λίγα καμπάνου. Λίποσο μπαουά. Γεβίσα βόιο κουμισακάι. Salo lango na yo koze la te va kuvao si moya kotanda mo solo koze la te va kumana bokono la ki salo lango na yo oh oh
yo 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 yo
yo yeah yeah yeah
yo 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 yo
tango za na bomo. Lakisa bango mutindo kani yolinga kabango yolela kamutemai baoyo pete la katolo yebisa bango boye
chimukuna na bikola be
oh
nakupenda mume solange fami nalingi bino
bikola
de la paix. Il est 7 heures. Le journal du 7 heures. Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous, ce qui fait la une de l'actualité. La crise ivoirienne du 19 septembre 2002 doit rester dans la mémoire collective pour éviter pareille tragédie à l'avenir, affirmation de Magloire Ndéhi de la Fondation Friedrich Naumann, pour qui la création d'un musée est essentielle pour conserver l'histoire. 80 contrôleurs financiers formés à l'importance de l'audit interne dans la gestion des finances publiques, une initiative du PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière. Au Nigeria, victoire à la présidentielle de Bola Tinubu, un candidat de l'opposition saisit la Cour suprême. Nous irons avec Jean-Claude Comé parcourir les unes des journaux parus ce jour. Ce sera pour la revue des titres de la presse. Et puis en fin d'édition, Doumbia Brahima sera l'invité de la rédaction, secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral au RHDP. Il se prononcera entre autres sur les résultats de son parti au sénatorial. Pour l'occasion, Doumbia Brahima sera reçu par Soro Adams. Le vice-président de la République est à New York aux États-Unis pour la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU prévue du 12 au 30 septembre prochain. Tiémoko Meliékoné, qui représente à cette rencontre le chef de l'État Alassane Ouattara, prononcera au nom de celui-ci une allocution à la tribune de l'ONU. Ce sera demain jeudi 21 septembre au cours du débat général. Par ailleurs, le vice-président de la République prendra part à plusieurs rencontres multilatérales de haut niveau, inscrite à l'agenda de cette session, dont le thème central est « Restaurer la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action sur le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous ». 19 septembre 2002, 19 septembre 2023, cela fait 21 ans que la Côte d'Ivoire a connu un début de crise militaire muée en rébellion. Pour Magloire Ndéhi, cette crise ne devrait pas être oubliée ou passée sous silence. Le chef de bureau Côte d'Ivoire de la Fondation Friedrich Naumann préconise que cette crise reste présente dans la mémoire collective afin d'éviter que cela ne se reproduise.
Le 19 septembre marque une date très grave. On peut dire qu'après la lutte pour les indépendances, l'une des plus graves crises que la Côte d'Ivoire a connue, c'est la crise du 19 septembre 2002. Malheureusement, nous constatons depuis quelques années que cette date passe inaperçue. J'ai essayé cette semaine d'interroger quelques jeunes qui ont autour de 20 ans, 22 ans, j'étais surpris de voir que ces jeunes-là ne savaient rien du 19 septembre, malheureusement. Si tous ces jeunes qui sont appelés à diriger la Côte d'Ivoire de demain ne savent pas que la Côte d'Ivoire a traversé une grave crise en 2002, je pense qu'on doit s'inquiéter de cette situation.
Qu'est-ce qui doit être fait alors pour éviter cet oubli-là chez les jeunes?
Oui, il faut des événements, des programmes par exemple d'éducation, intégrer cette histoire dans le système éducatif pour que les gens apprennent ce qui s'est passé. Il faut des événements commémoratifs annuellement. Il faut des initiatives de documentation historique qui permettent de relire cette histoire. Mais surtout, je proposais donc la création d'un musée où on pourra trouver des photos, des portraits. On pourra trouver même les accords qui ont été signés au cours donc de la résolution de cette crise. Tout cela permettra donc de garder la mémoire. Il ne s'agit pas de dire qui a raison, qui a tort, mais il s'agit de regarder les faits, qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut s'en souvenir régulièrement et pour éviter qu'on retombe encore dans cette crise.
Magloire Ndéhi, chef de bureau Côte d'Ivoire de la Fondation Friedrich Naumann, à l'instant avec Junior Cardin. Lien entre extrémisme violent et activité illicite en Côte d'Ivoire, c'est l'intitulé du récent rapport de l'ISS, Institut d'études de sécurité, qui s'est intéressé au sujet principalement dans les régions frontalières du nord du pays. On en sait plus sur ce rapport avec son rédacteur William Assanvo. Il est chercheur principal au bureau régional de l'ISS pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac Tchad.
Ce rapport s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche régional qui a été mené à la demande du Conseil de l'Entente et en Côte d'Ivoire avec l'appui institutionnel de la Commission nationale des frontières. C'est un projet qui couvrait trois pays, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin.
Quels sont les principaux enseignements que l'on doit retenir de ce rapport?
Il y a plusieurs enseignements et messages importants à garder à l'esprit. C'est la nécessité de ne pas appréhender cette menace uniquement sous l'angle des attaques, et prendre aussi conscience des efforts souterrains de la manifestation invisible de cette menace. C'est toute une infrastructure que ces groupes essaient de mettre en place. Donc, il faut véritablement penser l'action et l'activisme de ces groupes-là, y compris en termes de recrutement, de manière très large possible. Il y a aussi la nécessité de ne pas stigmatiser les acteurs économiques qui se sont retrouvés à collaborer avec ces groupes, parce qu'ils étaient souvent dans des circonstances qui véritablement les rendaient vulnérables à cette possibilité. Il est important aussi de pouvoir, compte tenu de la nature transfrontalière de la menace de l'extrémisme violent et aussi des activités illicites, des trafics, de pouvoir renforcer la coopération régionale transfrontalière avec les pays voisins.
Joint par Raoussi Potin, William Assanvo, chercheur principal au bureau régional de l'Institut d'études de sécurité pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac Tchad. Moderniser le traitement des informations hôtelières et renforcer le système de contrôle et de sécurité, c'est ce qui a motivé la création de l'application mobile Aura par la police nationale. La présentation de ce nouvel outil a eu lieu vendredi dernier à Korogo. Les Échos avec vous, Marcel Bonny.
Bien plus qu'une question de modernité, l'application Aura est une opportunité. Le commissaire divisionnaire major Touré Albert Kouakou, par ailleurs directeur de l'école de police Amadou Gonkoulibaly de Korogo, explique.
Aura est pour les professionnels de la sécurité un outil qui vient renforcer la lutte contre le terrorisme et les activités illicites connexes, ainsi que la recherche à temps réel d'individus à risque, à condition qu'ils aient dormi dans un réceptif hôtelier et qu'ils aient été convenablement enregistrés sur la plateforme dédiée par la réception de l'établissement.
Un aspect sécuritaire détaillé par le commissaire principal, Alou Ebrin Vincent.
Digitaliser la fiche d'hôtel, nous, ça nous permet d'aller un peu plus vite dans nos recherches. Donc, c'est centraliser toutes les données sur l'ensemble du territoire et puis faire des recherches en temps réel sur des personnes et enfin produire des statistiques fiables.
Au-delà, on retient d'autres enjeux pour les hôteliers, soulignés par Kone Pelaoutiria, directrice régionale du tourisme de Korogo.
Enjeu économique, car vous n'aurez plus à acheter des cartes. Il y a aussi un enjeu promotionnel, dans la mesure où cette application permet de vous géolocaliser pour permettre à vos clients de vous retrouver plus rapidement.
L'application Aura sera prioritairement déployée dans les villes qui accueilleront les matchs de la CAN 2023, avant d'être étendue sur l'ensemble du territoire pour renforcer le système de contrôle et de sécurité en recoupant les informations. Marcel Bonny, Korogo, Radio de la Paix.
Le PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière, organise avec la Direction générale du contrôle un séminaire de formation des contrôleurs financiers à la méthodologie de l'audit interne. Cette formation sur 2 semaines permettra de contribuer à une performance plus accrue des cadres de la Direction du contrôle financier. C'est ce que nous dit Didier Blé, qui pour nous a suivi l'ouverture de la première session le mardi 12 septembre à Abidjan.
En organisant cette formation, la BAD, à travers le PAGEF, s'inscrit dans le renforcement des administrations en vue de contribuer à la réforme de l'exercice du contrôle. Professeur Lambert Bomban Galadjo, coordonnateur du PAGEF.
Cette formation se focalise sur la définition des fondamentaux de l'audit interne, notamment les concepts de gouvernance et de gestion des risques, la sécurité de l'information, la gestion de la fonction d'audit interne, le suivi des actions et recommandations d'une mission d'audit interne, l'audit interne dans un contexte de modernisation de la gestion publique, assure une noble mission, telle qui consiste à donner à chaque ministère l'assurance que les dispositifs de contrôle interne en place sont efficaces, la maîtrise des risques et la sécurisation des processus comptables et financiers.
L'importance de l'audit interne dans la gestion des finances publiques n'est plus à démontrer, Nda Kakou Ange, directeur du contrôle financier.
Il s'agit d'un élément essentiel de gouvernance financière responsable, de reddition des comptes et surtout de confiance de nos populations. En tant que contrôleurs financiers, nous avons un rôle crucial à jouer dans la préservation de l'intégrité des finances publiques et d'améliorer de manière permanente, dynamique, tous les différents processus budgétaires et comptables.
Ce séminaire se déroule en 2 phases, du 11 au 18 septembre pour la première et du 18 au 23 septembre pour la seconde. Simultanément à Abidjan et à Yamoussoukro, il s'agit en tout de 80 contrôleurs financiers qui seront formés à la méthodologie de l'audit interne.
Une page noire dans cette édition, Marie-Maktar Niang n'est plus, ancienne journaliste à Radio Côte d'Ivoire puis à ONU-CI FM. Elle est décédée hier mardi 19 septembre à Grand Bassam. Que retenir de l'illustre disparu? La réponse avec Ricardo Somon. Il est membre de l'Amicale des Anciens de la RTI, dont la 4e vice-présidente, Marie-Maktar, était dans cette association.
Marie-Maktar Niang, une grande femme de médias. Hein. Elle a commencé par Radio Côte d'Ivoire, où elle présentait le journal radiodiffusé. C'est lorsque la crise est intervenue en Côte d'Ivoire qu'elle s'est retrouvée à ONU-CI. Marie est une professionnelle avec grand P. Elle a crevé l'écran quand elle était au niveau de Radio Côte d'Ivoire. La plupart des Ivoiriens qui ont suivi ses journaux peuvent en témoigner. Elle a été une grande professionnelle et cela s'est ressenti là-bas, à ONU-CI, où elle a été. Voilà, sa vie est faite de batailles, de grandes travailleuses, maîtrisant son art. Elle ne vivait que le journal radiodiffusé qu'elle faisait. Donc, au niveau professionnel, on a tous les atouts qu'il faut pour faire ce travail de journaliste. Parlant de la 2AFDI, elle est la cheville ouvrière de notre amicale. C'est elle qui, au début, au milieu et à la fin de tout ce que nous organisons. Elle est très active, rien ne peut se faire sans sa participation. C'est une grande professionnelle, compère, c'est une grande professionnelle à tous les niveaux. Une professionnelle de dimension non seulement nationale, mais même internationale. Marie, elle est complète.
Ricardo Somon, membre de l'Amicale des Anciens de la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne. Hors de nos frontières au Gabon, Noureddine Bongo Valentin a passé sa première nuit à Sans Famille, le surnom de la prison centrale de Libreville. Le fils Ali Bongo avait été coordinateur à la présidence, puis conseiller stratégique de son père au parti PDG. Certains le présentaient comme un potentiel successeur. Une dizaine de hauts responsables ont également été entendus hier mardi par le procureur. Beaucoup d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt et incarcérés, apprend l'AFP. Ils avaient été arrêtés après le coup d'État du 30 août dernier. Nous passons à la revue des titres de la presse avec vous, Jean-Claude Comé. Bonjour.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Divers sujets captent l'attention de la presse en ce mercredi 20 septembre 2023. Des confrères comme Soir Info et Fraternité Matin s'intéressent au drame qui survient dans la sous-préfecture de Guébonoa, notamment dans le village de Nyamban, où selon Soir Info, le bilan s'alourdit avec le 9e cas de décès, annonce Fraternité Matin. Ce journal, au-delà de cette page noire, fait un zoom sur la réforme des sciences de la santé au niveau de l'enseignement supérieur, notamment avec la suppression du tronc commun décidé par le gouvernement. Comment se fera la sélection des étudiants? C'est à cette question que le confrère se propose d'apporter des réponses. Au chapitre politique, des journaux comme Le Matin reviennent sur les leçons à tirer des élections locales et sénatoriales 2023 et exhorte le RHDP, après son triomphe, à se mettre au travail pour, selon ses termes, étouffer l'opposition jusqu'en 2025. Le Nouveau Réveil estime en réponse que la victoire du RHDP à ses municipales et sénatoriales et également régionales s'explique par un découpage électoral favorable, un remaniement de la CEI, la commission électorale indépendante, et également par l'inscription sur les listes électorales et bien d'autres éléments, et qui donne cette victoire que le confrère qualifie de surréaliste en deçà des réalités politiques. C'est un gros cafouillage au sommet de l'État à propos de ces régionales et également municipales et sénatoriales, pointe le quotidien d'Abidjan. Pour le Patriote, ce n'est plus ni moins, ni plus ni moins que des pleurs d'une opposition en déclin après sa débâcle électorale. Justement, après cette débâcle, selon l'Inter, le PPACI, donc au PPACI, des décisions sont annoncées. Le journal relaie aussi que Blé Goudé, président du COGEP, propose un état des lieux de la gauche, mais en attendant l'essor à la conviction qu'on va vers une nouvelle saignée au sein de l'opposition. Et puis économie, l'Inter et Soir Info l'annonce, le FMI, le Fonds monétaire international, démarre sa première mission d'évaluation de nouveaux programmes économiques et financiers 2023-2026 de la Côte d'Ivoire, et un décaissement de plus de 61 milliards de francs CFA est attendu. Et puis pour terminer, à propos de la lutte contre la vie chère, le président Ouattara suspend l'exportation du riz et du sucre. C'est ce qu'annonce le Rassemblement. Merci.
Merci à vous, Jean-Claude Comé. On vous retrouve dans moins d'une heure. Place à présent à l'invité de la rédaction, et petite précision à souligner, la parole sera donnée à certaines chapelles politiques pendant un temps, et ce, à partir d'aujourd'hui, elles auront à se prononcer sur les élections sénatoriales du 16 septembre dernier. Et pour ce jour, le RHDP ouvre le bal avec son secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral. Retrouvons donc Doumbia Brahima sur le scrutin et les résultats de son parti. Il est avec Soro Adams.
Bonjour Monsieur Doumbia Brahima.
Bonjour frère Soro.
Ainsi donc, au lendemain des élections sénatoriales du 16 septembre 2023, c'est la joie, la grande joie dans les rangs du RHDP, votre parti.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il est justifié que nous puissions être contents à l'issue donc des élections sénatoriales, qui viennent confirmer l'implantation du RHDP sur l'ensemble du pays. Mais ces résultats aussi viennent confirmer l'adhésion des populations à la politique de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est par ailleurs président du parti.
Et quels sont vos résultats?
Bien, vous avez vu qu'au niveau des élections municipales, nous avons pu obtenir 123 communes. Au niveau des élections régionales, 25 régions. Et puis au niveau donc des sénatoriales, sur 64 sièges qui étaient à pourvoir, le RHDP a obtenu 56. Donc je pense que c'est un résultat qui mérite d'être salué et qui mérite également qu'on soit heureux.
Et quelle lecture donnez-vous de cette mainmise du RHDP sur la Chambre haute du Parlement, c'est-à-dire sur le Sénat?
Non, c'est le fruit du travail du RHDP, des responsables du RHDP, du président de la République. Cela traduit l'adhésion, comme je l'ai dit plus haut, des populations à la politique de développement économique, social, culturel, sportif, enclenché par le président de la République depuis son accession au pouvoir. Moi, je vois en cela le fait que les Ivoiriens sont de plus en plus contents du travail et qui le lui ont manifesté lors de ces élections.
Alors, M. Doumbia Brahima, à la lumière de ces résultats des sénatoriales, Comment voyez-vous 2025, année de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire?
Bien, nous souhaitons que les Ivoiriens confirment ce qu'ils viennent de faire lors de ces élections à mi-mandat, qu'ils confirment cela lors de l'élection présidentielle. Mais en tout état de cause, le RHDP est un parti qui prépare avec beaucoup de sérieux les élections. Nous allons préparer minutieusement les élections présidentielles et le gouvernement, sous l'impulsion donc du président de la République, va continuer son travail pour le bien-être donc des Ivoiriens. Et donc nous avons beaucoup d'espoir et nous sommes confiants que les Ivoiriens continueront avec le RHDP.
Un candidat de taille et de poids de votre parti, Aoussou Jeannot, le président du Sénat, a été battu à ses sénatoriales. Qu'est-ce que ça vous dit?
Bien, c'est un résultat que je qualifierais donc de malheureux, mais ce sont les élections. Il y a deux issues possibles, soit la victoire ou la défaite. Nous constatons que nous avons perdu dans cette région, dans la région du Bélier. Bien, nous en tirerons toutes les leçons pour mieux préparer les scrutins à venir.
Mais êtes-vous surpris par cette défaite du président du Sénat?
Oui, à titre personnel, je le suis.
Parce que?
Théoriquement, il devait gagner ces élections. Quand nous regardons la composition donc, du corps électoral, et donc c'est pour ça que je dis que nous en tirerons toutes les leçons pour mieux préparer les échéances futures.
Il y a eu une grande division dans vos rangs, les rangs du RHDP.
Nous analyserons tous ces résultats et à la lumière de nos enquêtes, de nos informations, je pense que le parti prendra certainement les mesures qu'il faut pour ne pas que cela se répète.
Défaite au régional, défaite au sénatorial, que deviendra donc le président Aoussou Jeannot?
Je ne peux pas vous dire ce qui deviendra. Une défaite électorale ne met pas fin à la vie, ne met pas fin au travail politique, ne met pas fin à une carrière. Donc, je pense que l'avenir n'est pas bouché, l'avenir n'est pas sombre.
Pour qui?
Pour le président Aoussou.
Je vous remercie, M. Doumbia Brahima.
C'est moi qui vous remercie.
Invité de la rédaction, Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral du RHDP, était en compagnie de Soro Adams. C'est ce qui referme les pages de ce journal, dont voici le rappel des titres. La crise ivoirienne du 19 septembre 2002 doit rester dans la mémoire collective pour éviter pareille tragédie à l'avenir. Affirmation de Magloire Ndeyi de la Fondation Friedrich Naumann, pour qui la création d'un musée est essentielle pour conserver l'histoire. Et puis 80 contrôleurs financiers formés à l'importance de l'audit interne dans la gestion des finances publiques, une initiative du PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous, 8h.
Radio de la paix. Se parler. S'écouter, se comprendre.